Bon, mais Théorie communiste, le groupe qui fait la revue Théorie communiste, existe avec des changements naturellement parmi les gens qui le composent. Il existe depuis 1977. Nous en sommes au numéro 20, comme ça. Le numéro 21 est en préparation. Et il s'est formé en 1977 en rupture, mais une rupture qui avait déjà eu lieu avant. Ça s'est formalisé en 1977. Une rupture avec le conseillisme, avec toutes les théories qui pouvaient, les théories, les idéologies, les pratiques qui pouvaient tourner autour de l'autogestion. Il faut voir que quand le groupe se forme, ce sont des gens qui sont passés, presque tous, non tous à ce moment-là, qui sont passés par mai 68. Et ce qui s'est, l'après mai 68, et tout ce qui a pu tourner autour de la critique du travail, tout ce qui a été influencé également par l'internationale situationniste, et la critique du conseillisme, la critique de la gestion ouvrière, se fait dans ce milieu-là, dans l'époque de l'après 68. Et avec l'idée centrale dans tout ce milieu qui à l'époque, au début des années 70, est relativement important, l'idée centrale que la révolution, ce n'est pas l'affirmation de la classe, le prolétariat prenant en main les usines, mais avec le thème central de l'abolition du capital, c'est l'abolition de toutes les classes, y compris le prolétariat, on parle à ce moment-là d'autonégation du prolétariat. C'est le thème, dans ce milieu-là, c'est à l'époque le thème principal. Bon, ça c'est l'origine de TC, et c'est ce thème-là qui va être approfondi, qui va être développé, avec un changement important dans l'histoire, dans l'évolution du groupe, autour de 1980, où nous pensons qu'à ce moment-là, on peut commencer à parler d'une restructuration du rapport d'exploitation entre le prolétariat et le capital, et donc d'un changement de période, d'un changement de cycle de lutte. Et c'est donc la définition de cette restructuration du rapport d'exploitation actuellement et de quel est le niveau, quel est le contenu de la contradiction entre le prolétariat et le capital telle qu'elle s'est restructurée, cette contradiction, qui est l'essentiel du travail de théorie communiste depuis maintenant une vingtaine d'années. Et finalement, ce dont je veux parler, c'est de là où nous en sommes plus ou moins arrivés maintenant, à partir de ces points de départ. Donc justement, pour attaquer là-dessus, je partirai de ce qui me semble être une constatation. De définir quelque chose que je constate actuellement et définir la difficulté qu'il y a actuellement à parler de révolution et de communisme. On parle très facilement de nos interventions, de nos possibilités dans les luttes, mais la relation entre le cours des luttes revendicatives et la révolution est devenue actuellement très problématique. Je pense que cette difficulté à parler à partir des luttes revendicatives, du cours quotidien des luttes, maintenant, et de relier ça et de parler de révolution et de communisme à partir du cours des luttes revendicatives, c'est que il est devenu, à mon avis, impossible de continuer à dire que la révolution et le communisme, c'est plus ou moins une sorte de grand pouvoir ouvrier sur la société. Tant qu'une telle perspective était envisageable, la liaison entre les luttes revendicatives, la montée en puissance de la classe dans ces luttes revendicatives qui devenaient de plus en plus dures, et cette vision de la révolution comme grand pouvoir de la révolution et du communisme comme grand pouvoir ouvrier, il y avait finalement une continuité qui était assez facile à appréhender. Alors je pense que toute la difficulté de cette liaison vient du fait qu'actuellement il n'y a à mon avis, plus qu'une seule façon de parler de révolution et de communisme, c'est d'en parler comme communisation, c'est-à-dire le terme que je vais ensuite définir. J'essaie de définir ce terme, qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que l'abolition du capital est immédiatement l'abolition de toutes les classes, y compris le prolétariat, et non pas sa victoire au sens où il deviendrait la classe, où il deviendrait la classe dominante, prenant le contrôle de la société et entamant une période de transition vers le communisme. Ça signifie également qu'on ne fait pas la révolution pour le communisme, mais, j'aime bien cette formule, par le communisme, par des mesures qui sont immédiatement des mesures communistes. On ne fait pas la révolution pour réaliser ensuite le communisme. Alors, dire que le prolétariat dans la révolution s'abolit lui-même, c'est pas une sorte de suicide, c'est pas un miracle où il disparaît comme ça. C'est-à-dire qu'il abolit tout ce qui le définit. Ce n'est pas une généralisation du salariat, mais une abolition du salariat. On ne pratique pas un échange en comptabilisant les heures de travail, mais il y a une abolition de l'échange, abolition de la valeur, abolition de la division du travail, abolition même de la notion de produit et de la propriété sous toutes ses formes. Il n'y a pas une généralisation de la propriété ou une propriété publique et abolition de l'État. Tout cela, ce n'est pas l'application d'un programme, mais des mesures que le prolétariat doit être amené à prendre pendant la révolution même, des mesures quasiment de combat. Des mesures dans le cours de la révolution, des mesures de combat. Si on n'abolit pas l'échange dans le cours même de la révolution, on est battu. La révolution ne s'étendra pas. On sera battu parce que l'échange, bien le capital, ou c'est mieux le faire que nous. L'abolition du prolétariat sont des mesures pratiques de lutte qui sont prises dans le cours même de la révolution. Et quand on parle d'abolition de toutes les classes, y compris du prolétariat, dans le cours de la révolution, cela signifie par exemple que l'extension de la gratuité, c'est une intégration, l'extension de la gratuité, l'attaque, l'impossibilité dans la lutte qui est imposée à la classe capitaliste de continuer à faire ses échanges. Ce sont des mesures qui vont intégrer dans le prolétariat une bonne partie des classes moyennes, une bonne partie de toute une de déclassés ou de gens que la révolution elle-même aura complètement mis dans une situation invivable. Et si le prolétariat ne prend pas ces mesures immédiatement d'abolition de l'échange, d'abolition de toute forme de propriété et n'impose pas la gratuité, par exemple, il est battu et il n'intègre pas la masse de la population dans lui-même comme classe, ce qui est en même temps sa disparition. C'est-à-dire que pour imaginer une révolution victorieuse, je crois qu'il faut sortir du dilemme, du débat entre, du vieux débat du début des années 1920 entre Gorter et Lénine. Gorter disant le prolétariat est seul et doit lutter seul, et Lénine parlant d'alliance de classe. Si on reste dans ce débat-là, dans ce dilemme, de toute façon, on est battu d'un côté ou de l'autre. Ce n'est qu'en s'abolissant dans ces mesures, en s'abolissant comme classe dans cette pratique, dans ces mesures communistes, que une très large fraction, une grande partie de la société peut être intégrée dans la lutte même du prolétariat, sans que ce soit de l'interclassisme. Bon, pour terminer sur cette première définition de la communisation, ça signifie également qu'il y a la fin de cette notion, qui casse les pieds depuis un bon moment dans la théorie et dans la pratique de la notion de période de transition. Alors, ça ne signifie pas que d'un coup, comme ça, par miracle, tous les problèmes sont résolus, on est au paradis communiste. Comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, comme ça, dans la révolution, mais que tous les problèmes que nous lèguera, et il nous en lèguera énormément, la société, l'ancienne société, ne peut être, le communisme ne peut les résoudre que sur sa propre base. Et non pas en pensant généraliser l'échange au profit des pays sous-développés, par exemple, ou continuer tant qu'on en a besoin à utiliser telle ou telle usine ou tel type de, ou encore tel type d'échange. Il y a des. Bon, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que, à mon avis, on ne peut plus parler de révolution que comme communisation, d'où le problème de la liaison, qui n'est plus une liaison de transcroissance, mais de rupture avec les luttes revendicatives. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une restructuration du monde de production capitaliste. Alors, quand je parle de restructuration du monde de production capitaliste, il s'agit non pas d'une restructuration envisagée d'un point de vue objectiviste, économiste, bien que l'économie existe. Une restructuration du monde de production capitaliste, c'est une restructuration de l'exploitation, c'est-à-dire de la contradiction entre le point de travail et le capital. Alors, cette restructuration, dans la façon dont on l'envisage, s'étend du milieu des années 70, commence vers le milieu des années 70, jusqu'au milieu des années 90, seconde moitié des années 90. Nous pensons qu'actuellement, elle est achevée, en tant que restructuration. Tous les nouveaux éléments sont en place. Ça ne veut pas dire que le capital ne continue pas à les perfectionner de son point de vue, mais tous les éléments sont en place. Ce qui est important dans cette restructuration que je vais ensuite brièvement définir, c'est de la considérer comme une contre-révolution. Toute restructuration du monde de production capitaliste, puisque c'est une transformation du rapport entre les classes, s'effectue toujours comme contre-révolution. C'est-à-dire que cette restructuration, c'est la défaite du cycle de lutte antérieur. Celui qui, en gros, commence dans les années 20 et se termine à la fin des années 60. Alors, considérer la restructuration comme contre-révolution nous amène à poser trois questions qu'on va aborder. Alors, quel était le cycle de lutte précédent? Quelle était sa nature? Et donc, deuxième question, quel a été le contenu de la restructuration? Contenu qui ne peut se définir que comme réponse à cet ancien cycle de lutte. Et troisième question, quel est le contenu actuel de la contradiction entre le capital et le capital? Bien alors, pour la première question, c'est-à-dire la définition du cycle de lutte précédent, en grand trait, à la limite en caricaturant, je pense qu'on peut le définir comme l'existence à partir des luttes de classe de la révolution et du communisme comme affirmation du prolétariat. Bon, qu'est-ce que ça signifie affirmation du prolétariat? Deux éléments pour être extrêmement schématiques. Deux éléments principaux, l'émancipation du travail et le prolétariat devenant classe dominante. Et si l'on veut même, la dictature du prolétariat. Avec tous les thèmes du style libérer les forces productives, gérer les moyens de production, avec tous ces thèmes-là. Cette caractéristique centrale de l'ancien cycle de lutte, on peut la trouver sous toutes sortes de formes. Ça va de la dictature du prolétariat la plus typiquement léniniste au conseil ouvrier ou au projet du syndicalisme révolutionnaire. C'est, je pense, toujours le même contenu que l'on trouve. Ce qui ne veut pas dire que je confonds les uns et les autres. Je viens moi-même du communisme de conseil, je ne vais pas confondre le communisme de conseil avec le léninisme. Mais il faut comprendre pourquoi tout cela a appartenu à la même période. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont appartenu à la même période et que finalement, de façon différente, ils répondent aux mêmes questions. Ce contenu d'affirmation du prolétariat, émancipation du travail, le prolétariat devenant classe dominante, c'est ce que dans la théorie communiste, on appelle avec un mot qui n'est pas forcément très bon, on appelle le programmatisme. Alors, ce programmatisme, il se développe, je pense qu'il est définitivement formé, tous les éléments théoriques et pratiques sont en place vers le milieu du 19e siècle, il se développe et s'épanouit jusqu'à la Première Guerre mondiale.
Après, qu'est-ce qui se passe après la Guerre mondiale? Non, ils disent que c'est pas plus long que ça.
À partir de la Première Guerre mondiale, il a ce pragmatisme qui s'épanouit jusque-là entre en crise. Avec le passage du capital à la subvention réelle, ce pragmatisme entre en crise. Bon, on ne va pas développer la subvention formelle, la subvention réelle, on considérera que c'est que ça fait partie des acquis. Alors, s'il il entre en crise, non pas sous l'effet de causes extérieures, mais à partir de ses propres contradictions, telles qu'elles vont éclater avec le passage à la subvention réelle. Dans cette perspective d'affirmation du prolétariat, on a deux éléments. C'est une perspective qui est duelle. On a d'un côté, elle repose d'un côté sur la montée en puissance de la classe à l'intérieur du monde de position capitaliste, et d'autre côté sur la préservation, pour qu'il y ait révolution, de l'autonomie de la classe. Ce que j'appelle la montée en puissance de la classe, c'est le développement des partis ouvriers, des grands syndicats à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e, c'est les mutuelles, les coopératives, c'est tout ce grand mouvement ouvrier qui devient une sorte de seconde société à l'intérieur du capitalisme. Mais alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cette montée en puissance absolument nécessaire pour déboucher sur l'affirmation de la classe et de le prolétariat devenant classe dominante, qu'est-ce qui se passe? Cette montée en puissance, on le voit à la fin du 19e siècle et on le verra encore plus ensuite au 20e siècle, se confond de plus en plus avec simplement le développement du capital et l'existence du prolétariat comme classe vendant sa force de travail à l'intérieur du capital et étant pris dans sa reproduction. Montée en puissance, les deux termes nécessaires du programmatisme, montée en puissance et autonomie, deviennent contradictoires. Donc, au final, la révolution, comme affirmation de la classe, se perd elle-même dans la nécessité de ces médiations. Dans cette situation, on aboutit, au début du XXe siècle, dans la vague révolutionnaire qui commence en 17, même peut-être en 1905 en Russie, disons jusqu'à l'Espagne 36-37, on aboutit à une situation qu'on peut qualifier de situation tragique. Il faut considérer d'une façon absolument sans illusion et sans chercher la solution dans des circonstances plus ou moins favorables, il faut absolument considérer de face à la situation que de 1917 à 1937, de 1917 à Petrograd, à 1937 à Barcelone, la révolution est toujours battue par le mouvement ouvrier. On a l'exemple de l'Allemagne, entre 18 et 23. On peut prendre bien sûr l'Espagne en 36-37. On a toujours dans cette première période, disons, de l'entre-deux-guerres, dans cette vague révolutionnaire qui suit la Première Guerre mondiale, puis la période de l'entre-deux-guerres, on est confronté à quelque chose qu'il faut voir d'une façon absolument sans illusion. C'est du lien, à mon avis, du lien fondamental, d'un lien essentiel entre le contenu de ce qu'est cette vague révolutionnaire comme affirmation du prolétariat et sa contre-révolution. C'est le prolétariat à ce moment-là doit affronter sa situation, son ancienne situation dans la société capitaliste. Mais le contenu de sa révolution, c'est quoi? C'est la libération de cette situation. Or, qui représente le mieux cette situation qui est à libérer, si ce n'est le mouvement ouvrier qui va l'écraser? Donc c'est à partir de cette période-là et de cette situation, que je définis cette situation tragique de la lutte révolutionnaire durant cette période-là, que va se former le sens actuel du terme d'autonomie. Et à ce moment-là, je propose comme définition de l'autonomie, qui est en même temps la définition, à mon avis, de l'ultra-gauche. On peut appeler, c'est une définition, je m'excuse de donner comme ça quelque chose sous la forme d'une définition, on peut appeler autonomie toute pratique, organisation ou théorie qui pose la révolution comme affirmation du prolétariat, En considérant cette affirmation, je pense toujours à la définition de l'autonomie, en considérant cette affirmation comme critique et négation de tout ce qui définit le prolétariat dans son implication avec le capital et l'État. Dans, ce qui fait que dans cette affirmation du prolétariat, qui est la critique de tout ce qui le définit dans son implication avec le capital, cette autonomie devient, à mon avis, une contradiction en procès. Elle est une contradiction en procès, l'autonomie. C'est une affirmation qui doit critiquer tout ce qui définit ce qui est affirmé. C'est ce qui définit, je pense, tous les problèmes auxquels on est confronté théoriquement l'ultra-gauche, et ce qui définit la tragédie des révolutions durant l'entre-deux-guerres.